Bonjour.
Je crois que ce matin, le Seigneur a déjà bien préparé nos cœurs par l'introduction de Corneille, la louange et l'appel aussi de Robert et toutes les prières. Je crois que nos cœurs sont bien préparés à entendre ce que Dieu a à nous dire ce matin. On peut ouvrir la parole dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. 2 Timothée 2, au verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Donc c'est une parole que l'apôtre Paul annonce à Timothée, son jeune collaborateur, son protégé. Timothée était pasteur d'une église à Lystre. Lystre, c'est dans une ville actuellement en Turquie. Et donc, c'est la deuxième lettre que Paul adresse à Timothée. Elle est écrite entre 65 et 67 après Jésus-Christ, pendant sa captivité à Rome. Paul exhorte donc son jeune collaborateur à la persévérance, sachant que l'église de Lystre traversait de graves difficultés. Il le met notamment en garde contre les faux prophètes, les faux docteurs qui viennent troubler la foi des chrétiens avec des discours légalistes ou des discours séducteurs. Un des passages les plus illustres de cette lettre se trouve au chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Donc c'est une lettre écrite il y a presque 2000 ans, mais qui est profondément d'actualité. Je vais étudier ce passage de 2 Timothée 20 en développant trois points. Donc, mon premier point, vase d'honneur ou vase de déshonneur. Vase d'honneur ou vase de déshonneur. Dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Alors, à quoi sert un vase ? Là, j'en ai ramené deux. À mettre des fleurs. Effectivement, c'est l'emploi commun. De nos jours, un vase sert à mettre des fleurs. On en trouve aussi dans les musées, des vases de collection. Mais en réalité, à la base, le vase a été créé, fabriqué pour un usage bien particulier. C'était essentiellement à l'époque et au temps de Jésus pour y faire contenir des choses. Alors, on trouve par exemple dans Matthieu, l'évangile de Matthieu 13, au verset 47, un vase qui contenait quelque chose. Matthieu 13, verset 47. « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer » et rassemblant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Donc, le vase sert à contenir ce qui est bon. Contenir ce qui est bon. En réalité, le vase, c'est l'ancêtre de nos tupperwares, de nos boîtes. Alors, il y en a de toutes formes, de toute contenance, merci, parce que Je lui rends son dû. Il y avait de la soupe, effectivement. De la très bonne soupe. Des tupperwares de tailles différentes, de formes différentes. Et en préparant ce message, j'ai appris qu'à l'époque, il y avait plus d'une centaine de mots pour désigner un vase, selon sa forme, sa contenance et son utilisation. Dans notre passage, il est question de deux catégories de vases. Première catégorie, des vases d'or ou d'argent. Et ils sont qualifiés de vases d'honneur. Alors, selon vos traductions, vous aurez certainement des vases à usage noble. On trouve un vase d'honneur derrière moi, ce qu'on appelle un misrak. C'est un vase qui servait pendant les sacrifices rituels dans le temple de Salomon. Ce vase servait à recueillir le sang des animaux sacrifiés pour ensuite les répandre sur l'autel. On trouve aussi un autre vase d'honneur dans l'évangile de Marc. Évangile de Marc, au chapitre 14, verset 3. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme, n'est pas mentionnée ici, mais nous savons que c'est Marie, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Vous pouvez mettre un marque-page à cet endroit parce que j'y reviendrai un peu plus loin. Une femme donc qui vient au pied de Jésus avec un vase d'albâtre. Alors l'albâtre, c'est une pierre précieuse qui s'apparente un petit peu au marbre. Et on utilisait beaucoup l'albâtre pour construire des statuettes ou des petites fioles contenant du parfum de grand prix, comme c'est le cas ici. Le nard pur, c'est extrait d'une plante qu'on trouve en Asie. C'est une plante rare qu'on trouve dans les montagnes de l'Himalaya. Et donc, cette femme vient avec cette petite fiole de parfum pour répandre sur la tête et les pieds de Jésus. Les deux exemples que j'ai cités, misrak et puis ce vase d'albâtre, ce sont deux exemples de vases qui ont servi à honorer le maître. Mais il y a une deuxième catégorie de vases, des vases de bois et de terre, comme celui que j'ai apporté ici. Alors, ils servent à contenir toutes sortes de choses. Comme je l'ai cité tout à l'heure, ils pouvaient contenir du poisson, mais aussi des céréales, des épices, des fruits, des légumes ou des liquides, de l'eau, de l'huile, ou du vin. Et à ce compte-là, on va appeler ce vase une jarre. Le passage nous dit que cela servait à un usage vil, c'est-à-dire un usage ordinaire. Ou selon d'autres traductions de la Bible, un usage commun. Il y a une traduction qui va encore plus loin, elle utilise le mot des vases de déshonneur. Alors j'ai regardé un petit peu l'origine du mot, c'est le mot atimos en grec, et c'est ce qui est méprisable, honteux, sans honneur. Et quand on sait que ce genre de matériaux était aussi utilisé pour fabriquer les pots de table, en fait, des pots qui servaient à recueillir les déchets de table, ou aussi des pots de chambre, donc recueillir les excréments ou l'urine la nuit, en fait, c'est l'ancêtre de nos toilettes, eh bien, on comprend que c'était un usage peu glorieux. En réalité, Paul, en parlant des vases, il parle de nous, de nos corps. À l'époque, on utilisait beaucoup l'image du vase pour désigner le corps humain. Et Paul peut dire dans 2 Corinthiens 4, 7, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Un trésor dans un vase de terre. Il nous faut reconnaître effectivement notre misère devant Dieu, devant ce Dieu très saint, devant ce Dieu pur, sans défaut. Au fond, ce n'est pas moi qui ai de la valeur, mais c'est plutôt le message qu'il y a à l'intérieur de ce vase. Effectivement, un trésor dans un vase de terre, l'évangile qui tombe dans mon cœur, c'est ce qui me donne de la valeur. Mais ce n'est pas l'enveloppe, ce n'est pas le vase qui a de la valeur. En plus, ce vase est un peu fêlé. Je fais des cadeaux ce matin. Alors, qui voudrait ce vase ? Marianne, je te l'offre. Je m'approche pas plus parce que ça va. Bon, on est toujours plus généreux avec les biens des autres, effectivement. Ça, par contre, je l'offre volontiers, hein, c'est le mien. Et... Personne ? Tant pis. Ce n'est pas moi qui ai de la valeur, mais c'est le contenu qui attribue la valeur au vase. Sans l'évangile qui œuvre en nous, sans cet évangile qui nous transforme, nous sommes juste bons à être jetés au rebut. Mais c'est Dieu qui peut faire de nous des vases d'honneur, des vases de très grand prix, des vases d'or ou d'argent. Et nous verrons dans le second point, un peu plus loin, les conditions pour être ces vases d'honneur. Donc les vases, c'est nous. Et la maison, dans une grande maison, il y a toutes sortes de vases. La maison, eh bien, c'est l'Église. La maison symbolise l'Église, le lieu ici où nous sommes rassemblés. Dans l'Église, il y a donc des vases d'honneur et des vases de déshonneur. Ça surprend. Mais au fond, qu'est-ce que l'Église ? Ben, l'Église rassemble des rachetés de l'Éternel, des hommes et des femmes qui sont loin d'être parfaits, mais qui ont payé le prix et qui ont décidé de marcher avec Christ. Et j'espère que c'est le plus gros des troupes parmi nous. Mais il y a aussi des personnes perdues, des personnes qui sont en chemin, qui n'ont encore pas franchi le pas, mais qui s'approchent tout doucement de la grâce de Dieu. Il y a aussi des personnes qui viennent là, malheureusement, par habitude. Peut-être parce que ces personnes suivent un conjoint. En réalité, elles n'ont rien à voir avec la foi, elles viennent là juste pour l'apparence. Elles n'ont pas de relation personnelle avec le Sauveur. Il y a aussi des gens, et c'est le plus dangereux, des gens qui sont l'instrument du malin, qui viennent là pour détourner les chrétiens de la vérité. Et on en a vu. Des renards, des loups, qui viennent dans l'église juste pour se servir ou pour disperser le troupeau. Eh oui, c'est tout ça l'église. Donc en résumé, il y a les amis de Dieu, ceux qui marchent avec Dieu. Il y a les ignorants de Dieu, ceux qui ne le connaissent pas, ou peut-être pas encore. Et il y a les opposants, les ennemis de Dieu. Dans quelle catégorie es-tu ? Je prends le temps d'énumérer tout ça parce que la Bible nous met en garde à la fin des temps contre les faux prophètes, les faux docteurs, ceux qui, à la fin des temps, s'immisceront dans les églises pour semer la division et pour diffuser de fausses doctrines, pour diffuser des raccourcis et entre autres l'évangile de prospérité. Ce que tu déclares de ta bouche, Dieu le fait. Eh bien, Dieu reste souverain. Ou l'évangile de prospérité qui dit « plus tu donnes et plus tu seras béni et plus tu seras riche ». Ce sont des mensonges. Tout ça, ce sont des vases de déshonneur pour le Seigneur. Donc je peux être un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil qui ne sert à rien. Je peux choisir d'accueillir le parfum de Christ en moi ou de me laisser remplir par toute chose mauvaise, déshonorante. Alors, quelles sont les conditions pour être des vases d'honneur ? C'est mon second point. Les conditions, si quelqu'un se purifie, c'est la suite du verset, si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître. Si quelqu'un se purifie en s'abstenant de ces choses, bien de quoi me direz-vous ? Eh bien, de ces choses qui sont décrites au verset 16, donc juste un petit peu plus haut. « Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. Évite les discours vains, c'est-à-dire qui ne servent à rien, qui n'ont aucune utilité. Et les discours profanes, qui n'ont rien à voir avec la foi. Alors je vous rassure, ça ne nous empêche pas de parler de la pluie et du beau temps, ou de l'actualité. Mais là, Paul parle des discussions sans fin, sur des sujets qui sont peut-être parfois bibliques, mais qui n'amènent que la division. Parce que le seul but, c'est de discourir, c'est de bavarder, de bavasser, parfois de s'embrouiller. Alors on n'est pas forcé d'être d'accord sur tout. Mais si nous sommes d'accord sur l'essentiel, ce sera déjà bien. Jésus-Christ, crucifié pour mes péchés, ressuscité. Et pour le reste, Dieu va nous éclairer le moment venu. Et comme dit la parole, seulement au point où nous en sommes, au point où nous sommes parvenus, continuons à marcher ensemble dans la même direction. Si quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur. Paul poursuit un petit peu dans la même idée, au verset 22. « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Fuis les passions. Recherche la justice avec ceux qui invoquent le Seigneur. » Et ça nous rappelle que la purification se fait de manière communautaire. Si je fuis loin de l'Église parce qu'elle n'est pas ceci ou parce qu'elle n'est pas cela ou parce qu'elle n'est pas ce que je voudrais qu'elle soit, si, eh bien, je me coupe des frères et sœurs. Et il y a danger. Il y a danger de mort. Danger de mort spirituelle. Alors on a tous été tentés de nous mettre à l'écart de l'Église parce qu'on a été déçus. Mais c'est un leurre. Fuis les passions, repousse et recherche avec ceux qui recherchent le Seigneur d'un cœur pur. Il y a dans ces mots « fuis »,« repousse », il y a l'idée d'une mise à part, d'une mise à l'écart du péché pour se consacrer pleinement au Seigneur avec ceux qui le suivent. Donc l'idée d'une mise à part. Si je me purifie, si je me détache de l'iniquité, des choses futiles, et si je laisse de la place en moi, Dieu peut faire sa demeure en moi. Dieu peut établir sa demeure. Et nous devenons des vases de terre contenant un trésor. Un trésor dans un vase de terre. J'aime vraiment bien cette image parce que ça nous rappelle d'où nous venons. Nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. Mais ce qui va demeurer éternellement, c'est ce trésor que Dieu aura déposé en nous et c'est ce trésor qui aura fructifié en nous. C'est ça qui va demeurer éternellement. C'est l'impact que ce trésor aura eu dans ma vie. Nous sommes tous faits de la même pâte, en fait, une pâte faite de péché, une pâte faite de corruption, mais que Dieu a racheté au prix précieux de son sang. Et quand nous acceptons ce trésor en nous, eh bien, Dieu peut faire de nous des vases d'honneur. Donc nous sommes appelés à une mise à part. Et cette mise à part passe nécessairement par le brisement. Et là, on va reprendre le passage de Marc 14. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et l'ayant rompu, ou l'ayant brisé, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Alors moi, je me suis posé la question, pourquoi cette femme a-t-elle brisé le vase? Elle aurait pu utiliser le parfum, répandre le parfum sur Jésus, et puis utiliser le vase pour une autre utilité. Eh bien, en réalité, cette fiole que vous avez vue tout à l'heure à l'écran, eh bien, contenait donc ce parfum de grand prix, ce parfum rare. Et généralement, pour garder ce parfum intact, on scellait le haut de la fiole. Et donc, pour l'ouvrir, il fallait tout simplement briser le haut du vase. Et généralement, comme c'était quelque chose de très cher et très coûteux, ça servait au grand roi ou ça servait à embaumer le corps des personnes importantes, eh bien, on utilisait cette fiole, on mettait cette fiole dans la tombe du défunt. Donc, en gros, c'était une utilisation unique. Et cette femme donc vient avec ce petit vase d'une valeur inestimable et elle brise le vase pour en répandre le parfum sur la tête et les pieds de Jésus. En fait, le don de cette femme est inestimable. Quelques-uns s'offusquèrent. Quelques-uns exprimèrent contre elle leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Ils n'ont pas compris la valeur de ce geste. Elle casse les codes. Elle vient avec ce qu'elle a de plus précieux. Elle l'offre comme une offrande à Jésus. Et une fois, après avoir répandu le parfum, devant celui qui est merveilleux, devant celui qui est saint, elle est bouleversée et elle verse des larmes. Elle pleure sur les pieds de Jésus. Elle se répand, elle répand son cœur. Et comme elle n'a pas de serviette, elle prend ses cheveux et elle essuie les pieds de Jésus. Les autres ne comprennent pas. Mais elle, finalement, elle se fiche du regard des autres. Elle sait qui est Jésus et elle ne veut surtout pas passer à côté de sa bénédiction. Tout ce qu'elle veut, c'est montrer sa reconnaissance devant celui qui est le Dieu de la vie. En présence de ce Dieu saint, elle épanche son cœur. C'est un acte d'adoration radical. Elle brise son parfum parce qu'elle ne veut rien retenir. Elle ne veut rien ramener chez elle. Alors les autres s'indignent. On aurait pu le vendre, donc ce vase, pour plus de 300 deniers et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. 300 deniers, c'est l'équivalent d'une année de salaire d'un ouvrier à l'époque. Alors j'ai calculé, aujourd'hui ça ferait 14 000 euros. Cette femme vient avec une petite fiole de 14 000 euros. Elle l'offre à Jésus. Qu'est-ce qu'on a à offrir à Jésus de plus précieux? Est-ce que je suis prêt à sacrifier uniquement des choses futiles et sans valeur ou je suis prêt pour Jésus à lui donner ce qui, à mes yeux, a le plus de valeur? Si quelqu'un se purifie, il sera utile. Utile à son maître. Et c'est mon troisième point. Utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Verset 21. On n'est pas appelé à être des vases décoratifs. Dieu ne nous voit pas comme des vases de décoration. Oh, un joli Tony. Quel joli vase, je vais le poser sur mon étagère. Oh, un joli Robert. Ah, je vais le placer là, à côté du vase Mariani, qui seront en harmonie tous les deux. On n'est pas appelé à être des vases simplement de collection. Et que Dieu nous garde si nous devenons une église musée. Vous savez, une église où on entre, faire attention, juste pour regarder les jolis vases. Mais admirer des vases qui n'ont aucune utilité, ni pour le maître, ni pour le monde qui se perd. Dieu ne s'est pas révélé à nos cœurs pour que nous soyons simplement sauvés, mais que nous soyons utiles dans sa moisson. Le monde a besoin de voir la puissance de Dieu manifestée au travers de personnes brisées, sanctifiées, purifiées, des personnes qui se sont mises à part et qui ont accepté de payer le prix. qui font une différence, comme cette femme qui a tout donné, qui n'a rien retenu, et qui a fait fi du regard des autres, du « qu'en dira-t-on ?» mais qui ne voulait pas passer à côté de cette occasion d'honorer le maître avec ce qu'elle avait de plus précieux. Est-ce qu'on est vraiment prêt à payer le prix? Si nous restons un vase rempli de nous-mêmes, rempli d'orgueil, rempli de nos désirs, de nos conceptions, de nos visions, eh bien nous restons sans utilité pour le maître. Mais si nous acceptons d'être brisés, comme cette femme qui était pécheresse et qui certainement n'avait pas tout réglé dans sa vie, mais elle savait que Jésus pouvait. Si on accepte d'être brisé et de nous vider de nous-mêmes, eh bien, Dieu peut établir sa demeure et faire de nous des vases d'honneur qui diffusent le parfum de Christ. Que je diminue et que tu grandisses. Si nous faisons de la place pour plus de Jésus, plus de vie de prière, plus de méditation de la parole, plus de Saint-Esprit en moi, alors je serai un vase utile pour le maître. Brisé, restauré, puis utilisé. C'est la logique de Dieu. Brisé, restauré et utilisé. L'Église est une sorte de mosaïque réunissant des personnes brisées et restaurées ou en cours de restauration. Alors, des morceaux brisés, ça peut être des bouts de carrelage, ça peut être des bouts de faïence, des bouts de vase, mais dans tous les cas, c'est souvent de la récup, hein, une mosaïque. Je vous donne la définition de la mosaïque. Une mosaïque, c'est un assemblage de pièces brisées pour former un ensemble harmonieux. Assemblage de pièces brisées pour former un ensemble harmonieux. Mais c'est la définition de l'Église. Chaque pièce, au départ brisée, servait à rien, a été récupérée par le Seigneur et a été façonnée d'une certaine façon et agencée avec d'autres bouts pour former un ensemble harmonieux. Mais c'est la définition de l'Église, l'Église mosaïque. Alors si vous considérez un morceau isolé, est-ce que vous voyez le petit bout tout en haut là? Oui, vous voyez? Bon, est-ce que quelqu'un est capable de me dire ce que ça représente, à part Pierre qui a fait le PowerPoint? On peut pas dire ce que c'est, hein, on peut pas savoir. Par contre, ce morceau, dans son contexte, ce morceau a été connecté, accolé avec d'autres morceaux brisés et agencé d'une certaine façon par le constructeur. Et c'est une fois dans son ensemble qu'on comprend le but et l'utilité de cette petite pièce qui, au départ, servait à rien. Le morceau dans son ensemble prend enfin tout son sens, n'est-ce pas? Nous sommes tous des pièces rapportées, des morceaux brisés, juste bons à être mis au rebut, mais que Dieu a rachetés au prix de son sang, et que Dieu a connectés avec d'autres pièces aussi brisées, que Dieu a recollées avec d'autres morceaux pour constituer un merveilleux assemblage pour sa gloire. Et la pâte, vous savez, la colle, l'enduit qui nous lie, eh bien c'est son Saint-Esprit qui agit au milieu de nous. Chaque pièce a un rôle à jouer, une couleur, une nuance à apporter, un but, un objectif. C'est pas seulement pour boucher un trou. Tu n'es pas là simplement pour boucher un trou. C'est aussi l'image du puzzle. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup faire des puzzles, construire des puzzles. Et un jour, j'avais réalisé un puzzle de cheval. C'est un cheval. Et puis, malheureusement, à la fin, je me suis rendu compte qu'il manquait une pièce. J'avais perdu une pièce. Le puzzle sans la pièce, il manquait quelque chose. Alors, ce que j'avais fait, j'avais construit, j'avais un petit peu dessiné le contour, j'avais reproduit une pièce à ma façon, avec des crayons de couleur, et puis j'avais mis, mais ça jurait avec le reste, c'était moche, c'était raté. Alors, autant une pièce de puzzle toute seule, elle ne sert à rien, mais le puzzle sans la pièce en question, il manque quelque chose, c'est inachevé. Si l'Église est une mosaïque ou un puzzle, et que tu refuses de prendre ta part, de prendre ta place, l'œuvre n'est pas complète. C'est un sujet qui m'est cher, le service, la place de chacun. Et pour vous apporter un témoignage, j'ai durant longtemps souffert parce que je ne trouvais pas ma place. Je voulais servir Dieu, mais je ne savais pas comment. Alors, quand on ne sait pas comment, on regarde comment font les autres, et on imite. Alors j'imitais, mais ce n'était pas moi. J'imitais, ce n'était pas très probant. Ou sinon, c'était les autres, vous savez, les autres parfois essayent de vous mettre dans des cases. Elles pensent mieux que vous ce que vous avez à faire et ce que vous pouvez faire. Et quand j'ai compris que Dieu m'avait façonné pour, d'une certaine façon, juste pour accomplir une mission particulière, j'ai été libéré d'un poids, j'ai été libre de servir. Je suis libre d'exprimer ce que Dieu a mis en moi. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté et non pas pour retourner dans des cases ou imiter ou essayer de se conformer à des choses mais qui ne sont pas nous-mêmes. Bon, ça c'est mon témoignage, mais je crois que nous sommes tous appelés à accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et chacun, vous avez reçu des choses particulières. Dieu a mis dans chacun des dons particuliers. Alors peut-être 1, 2 ou 5, mais vous avez une couleur à apporter, une nuance. Vous avez des œuvres. Alors peut-être que vous ne savez pas encore quoi, parce que vous regardez ce qui se passe et puis vous vous dites, non, ça ne correspond pas. C'est peut-être qu'il y a quelque chose à inventer. Parce que nous avons un Dieu créateur. Et nous sommes les enfants du créateur. Nous sommes aussi, quelque sorte, des créateurs pour le créateur. Donc en résumé, si quelqu'un se purifie, il sera un vase d'honneur, un vase d'argent, un vase d'or, en tout cas un vase noble que Christ pourra utiliser pour sa gloire. Et là, j'invite les musiciens à nous rejoindre pour chanter ce chant « Purifie mon cœur ». Et je veux donner l'occasion à des personnes qui peut-être tout à l'heure ne se sont pas approchées. Je veux leur donner une deuxième chance. L'appel est simple. C'est un appel pour ceux qui veulent faire un pas de plus avec Dieu. Ceux qui veulent se consacrer pour être un vase d'honneur. Alors, comme cette femme tout à l'heure, comme Marie, qui n'avait certainement pas tout réglé dans sa vie, et elle était jugée par les autres pour ça. Son ancienne vie de pécheresse. Alors peut-être il y a des choses dans ta vie qui ne sont encore pas résolues, ou des choses que tu ne comprends pas. Mais Dieu demande juste un pas de foi. Dieu demande juste un élan vers lui. Dieu demande juste qu'on puisse s'abandonner à ses pieds et offrir ce qu'on a de meilleur. On a chanté tout à l'heure « Je te donne tout, un parfum » de grand prix sur toi est répandu. Voilà ce que Dieu demande ce matin, c'est que le parfum de bonne odeur puisse monter jusqu'à lui, et c'est nos cœurs qu'il recherche ce matin. Le Seigneur appelle ce matin un homme, une femme à devenir un vase noble, un vase d'honneur. Alors, ceux qui veulent s'approcher, peut-être les anciens pourront prier pour vous. Venez et puis chantons ensemble ce chant « Je te donne ». purifie mon cœur.